Fréquence protestante. La valeur de l'homme. Emmanuel Taïeb.
Une sociologie des pompiers. Bonjour à tous et toutes. Les pompiers incarnent une présence familière dans la ville, celle de la sirène et du camion rouge qui fascine tant les enfants. Mais les adultes savent aussi que cette visibilité marque chaque fois une détresse, prise en charge avec compétence et efficacité. Pensée rassurante pour le jour où ce sera peut-être leur tour. Mais en France, étrangement, ce service public, évident au professionnalisme indéniable, est assuré essentiellement par des non-professionnels. Pour 245 000 sapeurs-pompiers, on compte 192 000 volontaires. Énoncer ces chiffres est l'occasion de se dire qu'on ne sait finalement pas grand-chose de cette présence familière. Mon invité, le sociologue Romain Pudal, s'est engagé dans ce corps des pompiers volontaires en 1999 avant d'en faire son objet d'étude. Dans la lignée de ce qu'on appelle l'école de Chicago, qui s'était intéressée aux professions, il s'est immergé longuement dans le quotidien des hommes du feu, partageant leurs conditions, les questionnant et accomplissant avec eux les belles missions, mais aussi le « sale boulot » entre guillemets, comme on l'appelle, où les pompiers se font guérisseurs des pathologies sociales quand ils ne se sentent pas les éboueurs délaissés de la société. De cette expérience et de cette enquête, Romain Pudal a tiré un livre, « Retour de flamme », à la fois travail de sociologie compréhensive et récit à la première personne, de cette plongée ethnographique dans une profession. Bonjour Romain Pudal.
Bonjour.
Romain Pudal, vous êtes chargé de recherche en sociologie au CNRS, spécialiste de l'histoire sociale des idées, de la réception du pragmatisme en France et entre autres choses, vous animez le groupe de projet Ethnographie politique à l'Association française de sciences politiques. Votre livre, je l'ai mentionné, « Retour de flamme, les pompiers, des héros fatigués, point d'interrogation, c'est une question », est sorti à La Découverte, aux éditions de La Découverte, en 2016. Je voudrais qu'on commence, Romain Pudal, par l'entrée dans la profession de pompier. Il y a une série de... Ça a l'air compliqué, une série d'apprentissages, de rites de passage. Il faut se familiariser avec tout un univers.
Oui, oui, c'est un milieu très chaleureux, très sympathique, mais il est chaleureux et sympathique une fois qu'on a franchi effectivement un certain nombre d'étapes. Et donc, moi, j'ai eu la chance de faire mon... Enfin, la chance, on peut le mettre entre guillemets dans certains cas, de faire mon service militaire. J'avais plusieurs options possibles et celle que j'ai retenue, c'était de rentrer chez les sapeurs-pompiers de Paris, qui est un corps militaire, donc, parce que vous avez évoqué le fait qu'il y avait des professionnels et des volontaires, il y a aussi donc des militaires. Et donc, c'est une école de la rigueur, pour le dire, de la rigueur physique, morale. Voilà, et c'est vrai que c'est un milieu où on doit passer un certain nombre d'épreuves, on doit surtout montrer qu'on est prêt à payer de sa personne, à être pour le collectif, pour le groupe, c'est très important. À faire montre d'une certaine bonne humeur, parce que c'est un milieu qui est quand même à la fois très sérieux, qui ne se prend pas au sérieux. C'est une espèce de mélange tout à fait détonnant de ce point de vue-là. Une fois qu'on a... Alors je décris dans l'ouvrage, effectivement, on a surtout un grade. Hein, ensuite, on a un nom de famille. Puis progressivement, on a un prénom que les gens découvrent. Hein, puis après, on a un surnom, un surnom pompier. Donc il y a différentes étapes quand même d'intégration dans le milieu.
Il y a aussi tout un vocabulaire indigène, entre guillemets, qu'il faut apprendre, alors que vous mentionnez dans le livre, qui renvoie à un milieu ancien, qui a lui aussi tout son vocabulaire. Donc il y a les SARS, les pioupiou, on décale, ça veut dire qu'on va, on va en intervention. Donc ouais. Là, il faut aussi se familiariser avec un vocabulaire, un argot, un langage.
Ah, oui, tout à fait. Au début, c'est assez rigolo d'assister aux conversations de pompiers dans les cours de caserne ou dans le SAS des urgences, parce qu'on ne comprend pas très bien, parce que ça a riffé, il y avait une LDV... j'étais pas au BAT, etc. Donc on comprend pas très bien de quoi il retourne. Puis progressivement, on apprend ce langage qui, effectivement, renvoie à un métier assez ancien, avec des traditions très fortes. Et donc c'est un langage assez imagé, assez rigolo. Hein. Il y a les TPMG dont je parle, par exemple. Les TPMG, c'est les tout pour ma gueule. Donc ce sont
les gens qui appellent les pompiers.
Ouais, pour un oui, pour un non. C'est les carriéristes. C'est justement ceux qui pensent qu'à eux d'abord et qui pensent pas au groupe ou aux autres, ce sont des... Donc il y a tout un tas de gens, de figures comme ça, et puis de termes techniques, argotiques, un mélange de tout ça. Qui est assez marrant, oui.
La caserne semble être effectivement une institution totale, au sens d'Erving Goffman, parce qu'on y passe beaucoup de temps, on y est pris en charge, et vous dites, en fait, à plusieurs reprises, bon, voilà, qu'on y vit, mais que ça peut vraiment devenir une deuxième famille, parce qu'on est beaucoup, beaucoup entre soi, là-bas, en attente d'intervention, et qu'on vit des choses très fortes. Donc c'est vrai, il y a ce côté deuxième famille, Romain Pidal.
Oui, oui, parce que... alors moi, j'étais en garde, ce qu'on appelle garde postée, c'est-à-dire effectivement en caserne pendant 12 heures, des fois 24 heures en général, voire plus. Donc effectivement, c'est un collectif qui doit tenir ensemble. Si une des valeurs cardinales du milieu, c'est la cohésion, c'est pas pour rien, à la fois parce qu'il le faut sur intervention et puis parce que de fait, on vit. Donc on se connaît, au bout d'un moment, on se connaît très très bien, on connaît les parfums des uns et des autres, on sait les petites habitudes d'un tel ou d'un tel sur le café, etc. etc. Donc effectivement, oui, ça devient une petite famille, quoi, une seconde famille. Alors, encore une fois, ce que vous disiez tout à l'heure est très juste, il faut y être accepté. Mais une fois qu'on l'est, on peut difficilement trouver des gens plus serviables, plus présents, plus attentifs alors, à leur manière, parce qu'on ne fait pas de sentimentalisme, etc. On n'est pas là pour s'étendre sur ses chagrins personnels ou ses problèmes, etc. Au contraire, une des règles veut que si on a des problèmes, ils doivent rester à la porte de la caserne. Voilà, ça, c'est clair. Mais en même temps, ce sont toujours des gens sur lesquels on peut compter. Donc c'est un milieu assez chaleureux. Puis bon, moi j'ai monté beaucoup de gardes pour Noël, pour le 31 décembre, etc. Donc là, en plus, on fait la fête ensemble. Ouais. On s'offre pas forcément beaucoup de cadeaux, mais voilà, il y a un côté extrêmement chaleureux dans une caserne qui tourne bien, ce qui était mon cas.
Et qui peut éventuellement même remplacer la vraie famille, entre guillemets. Vous mentionnez, alors je sais pas si c'est fréquent ou anecdotique, mais le cas voilà de tel ou tel pompier qui à un moment se sépare, se retrouve à la porte de chez lui et au fond va vivre dans la caserne, qui est le lieu où il travaille.
Absolument. Mais c'est pas, je dis pas forcément que c'est fréquent, effectivement. Mais on sait que, en fait, quoi qu'il vous arrive, quand on est quand même dans cet univers-là, on peut franchir la porte de la caserne de jour ou de nuit, d'ailleurs, parce que comme ça fonctionne 24-24, il y a toujours des gens, plus ou moins, sauf si tout le monde est en intervention, mais enfin, en général,
c'est
voilà.
Rare.
Et voilà, et tout le monde trouvera des moyens d'aider, alors chacun à sa mesure. Donc, effectivement, j'ai un collègue qui a vécu plusieurs mois dans la caserne. Bon, on peut aussi s'entraider pour les repas, pour tout et n'importe quoi. Il y a, quelle que soit la difficulté rencontrée, on sait que là, on aura de l'aide, en fait.
Il y a une structure. Ouais. Vous disiez qu'on laissait les problèmes à l'entrée parce qu'effectivement, on s'occupe des autres. Ça nous amène, Romain Pudal, à la question centrale, qui est la question du professionnalisme des pompiers. Mm-hmm. Et je voudrais qu'on essaye de voir ensemble à quoi tient le professionnalisme. C'est-à-dire, est-ce que ça tient à une maîtrise technique et est-ce que ça tient à une maîtrise des affects, par exemple, à un contrôle du corps?
Alors, il y a les différents niveaux que vous évoquez sont présents en réalité. D'une part, il y a tout un travail évidemment d'apprentissage de techniques de brancardage, de techniques pour l'incendie, etc. Ça, c'est indéniable. Il y a tout un travail sur le corps, sur la préparation physique, l'entretien physique,
c'est très dur,
qui est assez dur parce que c'est un métier qui est physiquement assez éprouvant, et pas seulement sur les incendies. Je rappelle souvent que si les incendies, on en a de moins en moins. De toute façon, faire un brancardage de quelqu'un qui fait 100 kilos par les escaliers, etc. Bon, il faut quand même un physique qui suit. Donc, il y a ça. Et puis, il y a surtout ce qui me semble très important, c'est l'éthique pompier. Ce qu'on appelle l'éthique, qui est donc résumé en trois mots, l'altruisme, l'efficience et la discrétion. Donc, trois valeurs cardinales du métier qu'il faut vraiment à la fois apprendre, incarner dans le groupe, mais incarner aussi à l'égard des victimes et des gens. Donc, c'est une espèce de... d'apprentissage total ou de socialisation totale. C'est pour ça que je parle d'habitus pompier pour donner un peu... Parce que n'avoir que des compétences techniques et pas de valeur ou de qualité humaine, ça fait pas un bon pompier.
Ça fait un robot.
C'est ça. Ou un technicien, justement, mais c'est pas le but. Y a tout un tas de terminologies internes. Par exemple, dire de quelqu'un « c'est un bon pompier », ça paraît tout simple, mais la connotation du milieu, c'est de dire à la fois il connaît son boulot et... il est fin humainement, il sait s'y prendre, il sait trouver les mots quand c'est compliqué, etc. Et ça, c'est un bon pompier. C'est-à-dire, il n'est pas seulement dans l'application bête et méchante d'un manuel, il sent les situations et les gens, et il sait apporter une réponse de ce point de vue-là. C'est pour ça que je parle de leur professionnalisme comme un humanisme, quoi. Voilà, c'est indissociable.
On va écouter une chanson du groupe Les Yeux de la Tête qui s'intitule Les Pompiers.
Avec mon uniforme, je veux faire fantasmer les femmes. J'aurai plein de collègues, on aura un camion. En haut de la grande échelle, je verrai le monde à ma façon. Des années passées à s'entraîner, à faire attention, pas s'enflammer, apprendre à garder le sourire pour le meilleur et pour le pire. Ça y est, maintenant me voilà sur le terrain, à l'affût des malaises, des traumatismes bénins. Ça commence à bien faire, moi je veux quelque chose qui saigne ou quelque chose qui brûle enfin.
Pas trop quand même.
Je veux décaler sur de vraies interventions. Un mois dans la caserne, je commence à tourner en rond. Un mois dans la caserne, je commence à tourner en rond. Un mois dans la caserne.
Je commence à tourner en rond.
Pour un concert de mission, on monte un groupe de jazz.
Le groupe des pompiers de jazzy.
Tu fais quoi, t'as comme ça?
Hein? Moi, je fais du bugle. Et puis un petit peu de lance aussi. La lance à incendie. Et t'as pas du feu?
Si, tiens. Oh, mais t'es con, là. Voilà.
L'alarme sonne, je suis tout excité. Je me sens enfin un homme, c'est ma première virée. Incendie d'un hôtel, boulevard de la Chapelle. Quand j'en suis prisonnier, c'est moi qui vais tous les sauver. 3 minutes et demie pour traverser Paris. Avec notre deux tons, chou-marreur à l'air con.
La valeur de l'homme, une sociologie des pompiers. Nous sommes en compagnie de Romain Pudal. Juste avant l'interruption, on évoquait la maîtrise du corps, la maîtrise sportive, hein, parce que c'est un métier dur. On peut dire aussi un mot de la maîtrise des affects, parce qu'on est en permanence au contact de gens qui vont pas bien, de corps abîmés, malades, de SDF. Et là, il faut se contenir, vraiment.
Oui, c'est une des qualités des pompiers, qui est d'ailleurs une des choses qui m'a le plus impressionné dans le métier, en fait, en rencontrant les gens. C'est la capacité qu'ils ont sur intervention à être à la fois dans des formes d'empathie, parce que il s'agit effectivement de comprendre de quoi souffre une victime, etc. Ils peuvent être des victimes, ce que j'explique, à la fois physique, donc là c'est le plus évident, mais il faut quand même trouver les mots, des gestes, etc. Et ils sont à la fois dans l'empathie et qui va avec une forme d'autocontrôle extrêmement rigoureux. Parce que évidemment, on n'imaginerait pas et on ne tolérerait pas, ce qui est normal, qu'un pompier tourne de l'œil, vomisse ou je ne sais quoi. Donc, y a tout un travail de contrôle des affects, de gestion aussi de maîtrise de la peur. Enfin, vous n'avez jamais vu un pompier, enfin, je pense, sur intervention avoir peur. Ça ne veut pas dire qu'il l'a pas intérieurement, mais extérieurement, ça ne se voit pas, etc. Et c'est vrai que là, c'est un travail aussi que le groupe effectue. Les uns avec les autres pour dire en gros le pompier, c'est un peu le recours ultime. Donc si on nous appelle, les gens ne doivent pas se dire à aucun moment on est débordé par l'émotion, par l'inquiétude, etc. Donc quel que soit le vécu intérieur, alors c'est pour ça aussi qu'il y a des formes après des gros coups de stress, et des formes même de sport dur, etc., ou des moments de d'épanchement, des gens qui disent des choses, mais en privé, ça c'est la face cachée du métier, parce que des gens, effectivement, au fil des années, ont vécu des situations extrêmement douloureuses, et sur le moment, ils n'ont eu le droit d'exprimer quasiment rien, ce qui est assez impressionnant.
Donc c'est discuté collectivement quand même, c'est dans la formation, cette question.
C'est dans la formation, c'est plus dans le groupe, en fait, c'est plus informel. Ça va, d'ailleurs, c'est ce que j'essaye de montrer un petit peu. La phase publique, c'est toujours la phase soit du pompier un peu dragueur, soit du Superman, etc., sur lesquels ils en rajoutent beaucoup avec ça, etc. Ouais. La phase cachée, c'est aussi des gens qui finissent bout d'un moment à dire un peu par dire un peu ce qu'ils ont sur le cœur. Donc il y a des choses qui les ont quand même touchés, qui les ont bouleversés. On sait tous, assez au bout d'un moment, quel type d'intervention, quelle situation l'autre a vécu, qu'il vaut mieux pas évoquer, etc. Donc c'est des moments où ça va se discuter. Alors ça se discute souvent la nuit, puisqu'on est on est de garde. Alors on sort, on fait une intervention, puis en revenant on parle de l'intervention, ou des choses plus anciennes reviennent. Mais c'est toujours un peu au détour d'un moment. Ce sont des espèces de moments un peu privilégiés, mais assez rares, et je pense très précieux. Et puis surtout c'est vital, parce que on peut pas encaisser comme ça tout un tas de misère et de détresse, et puis sortir le matin de sa garde avec le sourire aux lèvres, et puis etc. Bon, donc oui, c'est derrière l'image du Superman un peu Golgoth, tout ça, qui sont aussi, il y a vraiment des, bah oui, il y a des gens qui peuvent encaisser difficilement des trucs, qui en souffrent, mais qui n'en feront pas part ni aux gens. En général, ils sont très attentifs aussi à ce qu'ils disent aux familles ou pas. Donc c'est lourd, parce que c'est effectivement ce qui peut être le plus pénible, le plus mal vécu, est gardé pour soi, quoi, pour l'entre-soi.
L'affect, les sensations, les émotions, la peur, elle est ressentie en intervention, et en même temps, elle est bloquée. Comment on fait ? C'est-à-dire que là, c'est quoi ? C'est la formation qui revient, c'est le fait d'être dans l'action, c'est le fait de se dire, j'ai un boulot à faire, là, il y a une urgence, qui sont des flammes, une évacuation, je dois y aller, et puis on se posera les questions plus tard. Comment on fait au niveau corporel, somatique ?
Somatique, la formation est très importante, parce qu'effectivement, c'est le moment où on vous inculque les règles du, il faut pas sur le visage, il faut que rien ne se voit, le regard doit être droit, direct, franc, etc. Enfin, il y a tout un travail sur l'impression qu'on le donne. Donc ça, c'est... Après, ce que m'ont beaucoup appris aussi ces années, c'est heureusement, pour certaines interventions qui sont un peu physiques, un peu dures et qui peuvent être un peu angoissantes, il y a, comme l'adrénaline est là, il y a beaucoup de choses qui passent dans le... dans l'effort physique. C'est-à-dire, il faut quand même trimballer ses tuyaux au quatrième étage, éteindre, casser une porte et tout ça. Bon, en quelque sorte, c'est pas mal, parce que
là,
ça évacue les choses, etc. Mais c'est vrai qu'il y a, en amont, de toute façon, il y a un travail, et puis régulièrement aussi, on fait des manœuvres tous les matins à la garde et tout ça. Un rappel de, vous ne discuterez pas les ordres, au sens où, quand ça va y aller, et ben, il faudra pas se poser de questions, quoi. Et donc ça, c'est un travail de formation et un travail de chaque garde, de chaque instant, quoi, de rappel à l'ordre aussi, dans certains cas.
Voilà. C'est presque des techniques du corps. C'est-à-dire, le fait de s'entraîner tous les matins fait que on va acquérir des réflexes évidents, qui sont complètement incorporés.
Bien sûr. Il y a toute une recherche, dans un premier temps en tout cas, de formation des automatismes. C'est-à-dire, vraiment, ça c'est tout à fait normal, et puis c'est sécurisant d'ailleurs pour les plus jeunes. Déjà, te pose pas la question de ce qui est en train de se passer là comme intervention, si ça brûle beaucoup, s'il y a des gens au balcon, parce que si tu vas pas t'en sortir, ça, tu ne le regardes pas. Tout ce que je te demande, c'est dérouler les tuyaux comme si, mettre la division à tel endroit, et puis voilà. Fais ça, concentre-toi là-dessus, et tu les aideras beaucoup plus que si tu les regardes avec un air en panique, ouais. ça sert à rien, ça sert à personne. Donc, effectivement, on le travaille, on le retravaille. J'ai des souvenirs de formation où, effectivement, le formateur m'attrape à la fois le cuir, le casque et tout ça, en me disant, tu sois ce que tu fais là. Ne regarde pas. Oui, ça crie, c'est fait pour. On va vous stresser, on va vous... Et quand ça sera sur intervention, ça sera pire. Tu seras là, tu sais que c'est pas des gens qui vont imiter des victimes, ce sera des vrais. Et tout ce que je te demande, c'est de rester concentré sur ta tâche. Donc, c'est effectivement un boulot assez impressionnant de ce point de vue-là, avec des gens qui... Alors après, au fil des années, on voit des gens qui ont une espèce de gestion de leur stress ou de leur angoisse qui est extraordinaire. Ils sont à la fois dans la technique, ils sont attentifs à leurs collègues, c'est-à-dire s'il y a des plus jeunes, par exemple, ils les voient, ils voient tout de suite si ça va pas, si, etc. Sur la victime, capable en même temps de regarder si la famille va bien, enfin une espèce de gestion comme ça. Alors il faut quelques années de pratique, hein, pour. Mais ça fait le fameux bon pompier qui sent un peu tout et qui prend beaucoup sur lui, justement. Il y a un côté, lui, il est juste là en super professionnel, quoi.
Effectivement, le très haut niveau de professionnalisme. Vous parliez tout à l'heure de la question de la misère, et c'est vrai que de plus en plus de pompiers sont appelés pour gérer les maux, UX de la société, les mots sociaux. Est-ce que ça, c'est une vraie évolution du métier, une évolution perceptible ?
Alors, moi, c'est ce que j'ai ressenti sur les 15 ans, à peu près, un peu plus. C'est aussi une chose qu'on discute beaucoup en caserne, c'est la question de qu'est-ce qui relève de notre métier ou pas, qu'est-ce qui relève du pompier. Certains ayant des visions assez restrictives, c'est l'urgence, la vraie urgence vitale, etc. D'autres considérant qu'on peut y inclure, qu'on doit y inclure toute forme de détresse physique, psychologique, etc. C'est difficile parce que ça a tendance, je pense, les effets des crises, les émeutes, enfin bref, il y a eu quand même beaucoup de, depuis 10 ans ou 15 ans dans la société française, il y a eu beaucoup de choses qui sont plutôt détériorées, et les pompiers sont en première ligne pour un peu tout. Voilà, des rixes, des problèmes familiaux, ils ont une gestion, ils sont dans la gestion de toutes ces détresses et toutes ces misères, qui sont évidemment pas seulement des détresses physiques ou physiologiques.
Ce sont des détresses sociales, des détresses familiales.
Et donc là, ça fait appel encore à d'autres qualités qui sont leur capacité à trouver des mots, à échanger, à discuter, à calmer des situations. Et c'est donc, j'appelle ça la métisse par référence au grec, enfin bref, à Jean-Pierre Vernon, une notion sur leur espèce de polyvalence, comme ça, de leur ingéniosité, qui est aussi une ingéniosité, morale, mentale, psychologique, qui est une capacité à sentir les situations et à trouver les bons mots. Et ça aussi, ça fait un bon pompier, justement.
Ils ont parfois l'impression d'être, alors vous le citez à un moment, éboueur de la société entre guillemets, c'est-à-dire qu'à un moment, tout ce qui n'a pas été réglé en amont ressurgit et les oblige à prendre en charge des choses qui pourraient ne pas relever complètement de leur mission. Et c'est ça aussi peut-être qui donne l'impression, la tâche est noble, d'être un peu dans du sale boulot et de faire le sale boulot à la place des autres, à la place des politiques, à la place des familles. Il y a cette idée-là ?
Oui, ce qui est... peut paraître assez évident, qui est de l'usure, tout simplement, de la fatigue, qui est une fatigue physique, une fatigue morale aussi, au fil des années, parce que si au début on est partant sur tout type d'intervention, tout type de victime, tout nous intéresse, etc., évidemment, quand vous faites 15, 20, 25 interventions dans une garde de 24 heures, je vous laisse imaginer combien, en fait, ça veut dire ne pas manger, ne pas dormir quasiment, enfin manger sur le pouce, etc., ça, pendant plusieurs années, c'est un traitement qui épuise. Et donc, avec toute la meilleure volonté du monde, avec la meilleure formation qui soit, et bien qu'ils soient effectivement avant tout des gars bien, je veux dire empathiques, altruistes, etc., certains s'épuisent et disent oui, on nous prend vraiment. Alors, il y a plusieurs expressions, le taxi rouge, c'est-à-dire on nous appelle pour rien, on fait le taxi, voilà, on amène à l'hôpital, et puis alors, le pire, c'est sans doute effectivement les éboueurs de la société, se dire bon. En gros, à chaque fois que cette société va mal, chaque fois qu'il y a un problème, on sait qu'on peut faire le 18, c'est gratuit, et puis après, c'est démerdez-vous. Voilà, concrètement, on a appelé les pompiers, les gens s'en vont, et puis on se retrouve tout seul.
Et vous trouvez à gérer les situations invraisemblables.
Et ça, évidemment, ça a des effets d'épuisement, de fatigue, d'exaspération, dans certains cas, de ressentiment, je donne ces exemples notamment sur les SDF par exemple, quand il y a les plans grand froid, tout le monde se sent obligé de faire quelque chose pour le SDF.
Alors là, ça appelle.
Voilà, alors là, on appelle. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois l'intervention d'aller déranger entre guillemets des SDF qui disaient mais moi, j'ai jamais appelé, je vous ai rien demandé, que t'es très gentil d'ailleurs. Tout le monde est gêné, il est 2h du matin, puis en même temps, il y a juste le bon citoyen qui a fait le 18. Quoi.
Oui, qu'il y a eu un moment, il s'est dit je vais avoir une bonne conscience et je vois un SDF en bas, par grand froid.
Sait-on jamais. Et bon, ce genre de truc, c'est compréhensible, mais ça fatigue. Ça agace. Et alors, ce que vous disiez est très juste aussi, c'est à un moment, ces gars-là se disent, mais pourquoi c'est à nous de gérer tout ça, quoi ? Pourquoi nous, on a été formés pour de l'incendie, du sauvetage, des choses graves, des voitures à découper et tout, et à la fin, on se retrouve avec des gens qui ont des problèmes psy ou qui boivent trop. Bon, mais d'accord, mais ça, c'est ce monde qui va pas bien. Alors, je trouve que certains sont très doués pour gérer tout ça. J'ai aussi des collègues qui sont fatigués de faire ça, quoi, qui sont usés, qui en ont marre, qui... que ça dégoûte un peu.
Je voudrais qu'on en vienne à la, Romain Pudal, à la question de la politisation des pompiers, pour savoir un peu comment ça se politise dans une caserne, parce que vous avez aussi des réflexions sur l'idée que, une politisation, c'est un processus très complexe, avec des allées et des retours, c'est pas uniquement un moment, c'est vraiment par immersion, par des informations qui arrivent. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? D'abord, les pompiers sont politisés.
Oui, en un sens, oui.
Et comment le sont-ils?
Oui, c'est une réflexion que j'ai menée depuis un certain nombre d'années. Vous avez évoqué au début le groupe Ethnographie Politique, notre groupe de travail là-dessus. Évidemment, on ne trouve pas des grandes discussions chez les pompiers sur un sous-courant du Parti Socialiste ou sur une énième réforme de Bruxelles ou des choses comme ça. Si on entend la politique ou la politisation au sens restreint,
ouais, comme une maîtrise technique, totale de l'univers politique.
Voilà, ça, c'est pas leur cas. C'est d'ailleurs pas le cas de beaucoup de monde, en fait. Voilà. Mais par contre, si on commence à être attentif, et c'est répondra donc à votre question, sur à tous les débats, à toutes les discussions, toutes les vannes autour des problèmes d'immigration, des problèmes de l'école publique, de nos interventions militaires en Afghanistan ou autre, etc. Là, en fait, ça débat tout le temps. Et alors, c'est sur la base de quoi? Alors, des expériences personnelles, de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils vivent en intervention, des milieux sociaux qu'ils rencontrent, parce que c'est un métier assez intéressant, parce qu'on va effectivement du SDF...
On rentre chez les gens.
Et
on voit toute la société.
Et on voit beaucoup de choses. Ouais. Et donc là, il y a des tas d'échanges de mails, on discute avec la presse du matin autour du café, en regardant le journal télévisé. Enfin, il y a tout un tas de canaux comme ça qui suscitent les discussions. Et puis, évidemment, il y a les situations vécues, notamment, par exemple, toute la période des émeutes était une période tout à fait intéressante du point de vue de la politisation ou des questions politiques, parce que entre deux feux de poubelle ou deux feux de voiture, on se demandait dans le fourgon, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Qu'est-ce que c'est que cette société? Pourquoi ces jeunes-là, parce qu'évidemment, il était considéré que c'était évidemment des jeunes des cités, etc., n'en peuvent plus au point de faire machin. Pourquoi est-ce qu'ils brûlent les voitures
leur bibliothèque en bas de chez eux, leur école,
pas les beaux quartiers pour aller vite, etc. Donc il y avait en fait toutes ces formes-là de discussion, de débat que j'ai trouvé moi hyper intéressantes et qui montrent aussi que les gens bougent. Il y a des valeurs partagées, etc., mais les gens bougent parce que on peut avoir un discours très dur sur l'immigration et puis justement faire une intervention où on va marquer une empathie très forte avec quelqu'un qui est pourtant une personne immigrée, etc., etc. Donc ça ne joue plus du tout à ce moment-là. Il y a des rapports par les gamins sont très importants aussi, comment ils vivent à l'école privée, l'école publique, etc., etc. Et on voit que les gens sont tiraillés eux-mêmes suivant les années de bottes qu'ils ont eues, les expériences qu'ils ont eues, et puis les discussions avec les collègues qui les rappellent des fois à l'ordre.
Donc en fait, ça se bat aussi politiquement, c'est-à-dire qu'il y a quand même, c'est pas univoque, et on se vanne, c'est aussi une manière de discuter politique quand quelqu'un va trop loin ou va vers les extrêmes.
Alors il y a cette dimension-là, c'est-à-dire il y a des choses sacrées, l'éthique du métier ne peut pas être mise en cause par des questions politiques, et c'est vrai que c'est on voit que il y a de la discussion, il y a du débat, moi j'ai essayé d'en restituer un certain nombre parce que je trouvais que c'était beaucoup plus riche que souvent ce qu'on considère comme étant le rapport des classes populaires pour aller vite à la politique, à savoir de l'incompétence ou du désintérêt. Et il y a notamment beaucoup de débats sur la question de la lucidité politique. Qui est-ce qui est vraiment lucide aujourd'hui? Voilà.
C'est intéressant. On va se quitter sur ces mots. L'émission s'achève. Merci beaucoup Romain Pudal d'être venu dans cette émission. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Retour de flamme au pluriel, Les pompiers, des héros fatigués, aux éditions La Découverte. C'est paru en 2016. Merci à Arnaud, à la technique. On se retrouve dans 15 jours. À bientôt.